Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va parler du pouvoir d'achat. Il n'y a que du pouvoir d'achat partout. Même le chômage d'ailleurs a disparu des programmes. On en parlait déjà hier avec cette formule d'une tribune de chef d'entreprise. Cette jolie formule, le pouvoir d'achat, ça ne se gère pas comme l'eau qui sort du robinet. C'est un résultat, disait-il. Et ça inquiète le patronat. Hein. On rase gratis à tous les niveaux en matière de pouvoir d'achat, notamment, bien sûr, le SMIC augmenté de 200 euros net par le nouveau fonds populaire. C'est une tyrannie de l'élection, écrit Emmanuel Combes dans les colonnes de l'Opinion aujourd'hui. Sur la retraite, après le débat d'hier sur TF1, il y a une chose qui est claire, la volonté d'abroger l'actuelle réforme des retraites. Bon, derrière, c'est un peu le brouillard qui demeure entre le taux, l'âge légal, puis l'âge de retraite à taux plein. On n'y voit pas vraiment très très clair. Sur l'immigration, le Rassemblement National a pris des positions nouvelles hier. Un slogan signé Jordan Bardella. Oui, à une immigration de croissance. Alors, on avait déjà le juste échange à la place du libre-échange. Le protectionnisme intelligent à la place du protectionnisme. Voici l'immigration de croissance. Et alors, comment ça se traduit? Par un solde de 10 000 entrées légales tous les ans destinées au fonctionnement de l'économie, nous dit le président du RN. Et puis, Gabriel Zucman a remis un rapport au G20. Pour taxer les milliardaires dans ces 20 plus grands pays du monde. Voilà, il considère que si on prend 2% à 3 000 personnes qui ont un patrimoine d'au-dessus d'un milliard d'euros, de dollars, on a 200 à 250 milliards de dollars de recettes par an. Et puis on évoquera quand même les effets de marché qu'on observe jour après jour. C'est parti. Bonjour Nathalie Janson.
Bonjour.
J'ai mis le Bitcoin aussi pour vous dans les sujets.
Oui, mais c'est
parce que
tellement gentil.
Il est passé sous les 60 000 dollars.
Eh oui, il est passé sous les 60 000.
Bon. Alors, il a perdu 12% en un mois. Vous êtes professeur à Neoma Business School. Bonjour Sylvain Aurébi.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, les Tekousmi. Bonjour Rafik Smati.
Bonjour Nicolas.
Chef d'entreprise dans le digital. Et vous avez écrit Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle, publié chez Erol. Et je commence avec vous, question ouverte, Rafik. Depuis le 9 juin, 21h, comment vous vivez la séquence?
Écoutez, je la vis assez mal, pour ne rien vous cacher. Je la vis assez mal en tant que chef d'entreprise, évidemment, puisque les incertitudes qui s'ouvrent à nous sont absolument mortifères. Vous savez que tous les acteurs économiques, par définition, ont besoin de visibilité. Et là, c'est le contraire, ce qui est en train de nous servir. Mais je la vis encore plus mal. Et pardon de prendre mes distances avec le thème principal de cette émission qui est l'économie, mais je la vis très mal en tant que citoyen. Et en particulier en tant que citoyen français qui aime la France, qui est profondément patriote, mais dont il se trouve qu'il est né en Algérie. Et qu'il est né avec un passeport qui n'était pas le passeport français. Et dont certains partis aujourd'hui qui sont en situation de gagner l'élection législative et d'avoir le gouvernement de la France demain, pouvoir mettre en doute ma loyauté et mon intégrité en tant que français. Vous voyez, quand j'étais étudiant à l'École Centrale Paris, j'ai visité la centrale nucléaire de Gravelines.
Oui.
Et j'ai été passionné par cette économie, par cette industrie. Et j'aurais pu avoir envie d'y faire carrière.
Dans le nucléaire?
J'aurais pu. Et j'avais à ce moment-là des rêves. Des rêves qui sont permis en France, où tout est possible, où j'aurais pu, dans un certain contexte de vie, avoir envie de devenir patron d'une centrale nucléaire. Hier, Jean-Philippe Tanguy me dit... eh bien non, ça n'aurait pas été possible. En revanche, vous auriez pu être patron d'une centrale thermique. Après tout, il n'y a pas de honte à diriger une centrale thermique. Alors pardon, mais c'est pas ça pour moi la France. Je veux bien qu'il y ait sur des métiers stratégiques des contingences et des enquêtes, et c'est déjà ce qui est le cas aujourd'hui. Et ça ne concerne pas que les binationaux, ça concerne plein d'aspects de la vie, et c'est tout à fait normal. Mais que l'on mette en doute l'intégrité de millions de Français aujourd'hui qui sont des acteurs de l'économie, qui aiment la France, je le répète, et je trouve ça triste d'ailleurs de devoir le dire et de devoir le revendiquer, et bien ça met une atmosphère qui est absolument délétère. Vous voyez, depuis des années, je m'interdis de qualifier le Rassemblement National d'extrême droite par respect pour ses électeurs, parce qu'il y a quand même 30% des Français qui votent pour ce parti. Mais là, je suis en train de me dire que la vraie nature de ce mouvement est en train de se révéler, et ça m'inquiète en tant que citoyen.
Il est vrai que dans les positions prises hier, il y a l'idée que des métiers sensibles, alors centrale nucléaire par exemple, seraient inaccessibles pour des binationaux, c'est ce qui a été dit. Mais la double nationalité qui devait être remise en cause n'est plus remise en cause.
Oui, mais vous vous rendez compte que...
Non, mais je comprends bien ce que vous me dites.
D'un point de vue légal, en fait, ça ne tient pas.
Ça ne tient absolument pas la route.
Non, pas possible.
Il n'est pas possible, quand bien même vous vouliez renoncer à votre nationalité de naissance, qui en soi est une hérésie. Moi, je suis né en Algérie, je suis né avec un passeport algérien, j'aime beaucoup l'Algérie, c'est un pays qui est absolument magnifique. À aucun moment, j'ai envie de me couper de ses racines. Mais quand bien même certaines personnes auraient envie de le faire, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous auto-déchoir d'une nationalité de naissance. Donc c'est une mesure démagogique, populiste, qui sera absolument inapplicable.
Inapplicable.
Et dont l'unique effet est de planter une petite graine dans des millions de Français en leur disant « Attention, tu as cru que tu étais des nôtres, mais tu ne l'es pas tout à fait ». Et ça, c'est pas l'idée que je me fais de la République.
Sylvain Rébi, la séquence depuis maintenant bientôt 15 jours, on va en refermer une première étape dimanche prochain.
Oui, bah écoutez, je reprends le premier mot de Rafik, qui est l'incertitude qui nous inquiète beaucoup. C'est vraiment ça le problème. Alors je rejoins Rafik évidemment sur tout ce qu'il vient de dire, hors économie, mais je le rassure sur le fait que cette mesure ne sera pas appliquée, qu'elle n'est pas constitutionnelle, et qu'on est au niveau des effets d'annonce, que ce soit au plan politique ou au plan économique. Et donc je reviens moi sur le plan économique, le plan des entreprises, et c'est vrai que cette incertitude, elle est compliquée à vivre quand on est chef d'entreprise aujourd'hui. Parce qu'on a un choix, enfin on sait ce qu'on a aujourd'hui, on en pense ce qu'on en veut, mais on a le choix entre, à l'extrême droite, moi je les appelle l'extrême droite parce qu'ils sont quand même là-bas, des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, et qui le montrent tous les jours puisqu'ils changent d'avis et qui sont en train de plumer leur propre programme sans que personne ne leur demande rien. Donc à l'extrême droite, des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, qui ne sont pas conseillés, qui n'ont pas d'économistes autour d'eux, qui ne trouveront même pas de ministre de l'économie et des finances demain parce que personne ne veut s'y coller. Et à l'extrême gauche, vous avez des gens qui savent trop parfaitement ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils ont beaucoup d'économistes, parce qu'ils sont dogmatiques, parce qu'ils ils y réfléchissent depuis des années, qui savent très bien comment plumer l'économie française et qui sont prêts à le faire demain matin. C'est-à-dire que la différence entre RN et LFI, c'est que RN n'a aucune idée de ce qu'il va faire et ne fera rien, et que LFI sait très bien ce qu'il va faire et qu'il le fera. Ils l'ont fait par le passé. Donc là, c'est une inquiétude des deux côtés. L'incompétence contre le dogmatisme. Que choisir ? Moi, j'avoue que demain, je souhaite personnellement un hung parliament, comme disent les Anglais, c'est-à-dire pas de majorité, et que trois blocs se retrouvent à l'Assemblée et qu'on puisse discuter et qu'on puisse voter ce qui doit être voté dans l'intérêt de la France et des Français, et que le reste soit mis en sourdine le temps qu'une autre élection, qu'elle soit législative ou présidentielle, se profile à l'horizon.
Ce serait probablement un peu une paralysie du pouvoir, mais il en est certain qu'il souhaiterait
la
avoir
Belgique,
un coup.
Oui, la Belgique a été gouvernée, je crois, pendant 2 ans, et beaucoup mieux gouvernée pendant ces 2 années-là que pendant les années où il y avait un vrai Premier ministre avec une coalition.
La Belgique où il n'y avait pas de gouvernement, en fait.
Absolument, en gros. Bon. Donc, tout est encore possible.
Non, mais bon, certains souhaiteraient aussi, ou rêveraient peut-être d'un gouvernement technique, comme on a eu Mario Monti à un moment, qui a pris la tête de l'Italie de manière un peu surprenante au moment où il y avait un risque d'incident de crédit.
Voilà, mais on est en France et tout ça est compliqué parce que tous ces camps se détestent, tous ces gens se détestent, et tous ces gens, je suis désolé de le dire, détestent les Français parce que ils les mettent dans une situation qui va être extrêmement compliquée. Tous les Français, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'extrême centre, tous les Français vont souffrir de cette incertitude et de ce malaise politique qui est entretenu par chacun des partis, il faut le dire. Il est entretenu tous les jours par chacun qui vient soit mettre de l'huile sur le feu, soit rassurer. Et dans les deux cas, ce sont des choses qui sont très inquiétantes.
Mais ici, on parle d'économie. J'ai la conviction que plus que jamais, l'économie ne fera pas voter à cette élection.
Absolument.
Pas les questions économiques. D'ailleurs, vous avez vu tous les items de réforme qu'on annonce. Enfin, on peut se permettre de dire qu'on va mettre la retraite à 60 ans. On peut se permettre de dire qu'on va mettre 14% sur le SMIC. Si c'est gros, ça passe. On peut y aller. Les histoires de baisse de TVA, c'est juste d'aller dans le mur en klaxonnant. On l'a démontré ici à plusieurs reprises encore hier, mais c'est pas grave. Du coup, je poursuis sur cette question avec vous, Nathalie Janson. D'abord la question ouverte, mais après je vais vous amener sur les réactions de marché, parce qu'on a quand même eu des petits mouvements. Il y a pas le feu, il y a pas d'incendie, mais il y a des petits mouvements. Mais sinon, oui, vous depuis le 9 juin.
Moi, j'avoue que j'étais sidérée. Je pensais pas que Emmanuel Macron pouvait aller au-delà des espérances de mettre en fait dans un tel chaos en fait le pays. J'avoue que j'aurais pas imaginé qu'il était capable d'aller jusque-là. Bon, personne, puisque personne n'était au courant. Les photos qui ont été prises le montrent. Tous les clichés qu'on a pu voir pris sur le moment montrent bien que tout le monde n'était, enfin personne n'était au courant de cette décision. Et moi, c'est surtout ça qui m'a vraiment profondément choquée. Et après, bah alors là, ça a été le festival du grand n'importe quoi. Je pense que là, on a atteint quand même un maximum à la fois du côté du RN, du nouveau. Moi, enfin, il y a eu des renversements de Glucksmann, le camp Glucksmann. On disait non, on va y aller tout seul. 10 heures plus tard, c'était terminé. Enfin, c'était incroyable. Et même du côté du coup de LR. Et là, effectivement, ça a également déçu beaucoup, énormément de gens que je connais plutôt, qui sont plutôt libéraux au sens classique du terme, et qui sont tombés de leur chaise à voir le chef du parti qui est allé comme ça tout seul dire ouais. Ah mais non, mais on va collaborer avec le RN. Je pense que là, enfin, c'est vraiment été le fait. Et là, on voit vraiment la vraie nature du politicien qui est prêt à tout pour être devant de la scène. Enfin, c'est terrible, je pense, pour surtout des gens sérieux qui avaient envie de faire passer des idées, parce que là, c'est pas les idées qui passent.
Hein. Vous avez parlé de sidération. Je vous raconte une anecdote. Toute une bonne partie de l'équipe de la matinale de BFM Business était le 9 juin au soir en train de dîner à Bruxelles quand ça a été annoncé, puisqu'on faisait une spéciale depuis le Parlement européen le 10. La gueule qu'on a fait autour de la table. D'abord, il y en a un qui voit sur son téléphone. Moi, je me dis, c'est pour rigoler.
Oui, oui.
Et puis, je réalise quand même, au bout de quoi, de moins d'une minute, que non, c'est vrai. Et là, franchement, je vous le dis, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fout là, nous? Qu'est-ce qu'on fait à Bruxelles? Ben, il venait de nous voler la vedette, mine de rien, sur le terrain purement médiatique. C'est sûr qu'à la préoccupation du lundi matin, elle allait dans les têtes être davantage politique franco-française que des enjeux européens qui, d'ailleurs, n'ont pas existé dans la campagne des européennes. On a fait que du franco-français, comme d'habitude. Bon, eh bien, c'est sympa. Tiens, mais je poursuis avec vous, Nathalie Janson. Donc, on a vu, les premières réactions de la Bourse de Paris la première semaine, ça a été chaud. C'est un peu repris. On est aux alentours des 7700 points. On a vu quand même le taux à 10 ans français prendre un peu le large. Un peu. On est monté jusqu'à 80, 81 ou 82 points de base d'écart avec le Bund allemand. Mais là, on est redescendu à 70 points de base. On a vu que l'euro avait perdu un peu de terrain face au dollar. On était à 1,09. Maintenant, je sais pas à combien on est, mais 1,07 par là. Un truc comme ça. Bon, RAS.
Non, je pense que, comme je l'avais déjà évoqué dans d'autres circonstances, en fait, je pense que là, c'est vraiment l'effet de surprise. Hein. Donc, les marchés, on sait très bien que c'est des anticipations avec les informations publiquement disponibles. Bah, celle-là, elle n'était pas publiquement disponible avant. Elle est arrivée comme ça, elle a surpris tout le monde, elle doit être intégrée. Donc, l'ajustement des marchés, il s'explique comme ça. C'est-à-dire qu'on intègre le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, on en revient sur le rôle des incertitudes. C'est-à-dire, comme on ne sait pas, eh bien, forcément, on a une incertitude vraiment radicale sur quelle va être la prochaine étape en France, et par conséquent, les marchés prennent acte. Certains ont d'ailleurs comparé avec 2017, lorsqu'il y avait eu Marine Le Pen, l'effet Marine Le Pen, en comparaison. Et effectivement, on avait à peu près eu, alors c'était uniquement sur le, on voit bien la différence, c'est uniquement le marché des obligations qui avait baissé, enfin, où les rendements avaient augmenté.
Voilà, on avait un spread à 70. Pareil.
Exactement, 70-80, on a à peu près la même proportion. Mais là, c'est parce qu'il y avait un thème très précis, c'était qu'en fait, elle évoquait le Frexit. Ici, on voit que c'était 2017. L'avantage du contexte de 2017, c'était qu'en fait, on avait une Banque Centrale Européenne qui achetait à tout va sur le marché des obligations souveraines.
On était en plein quantitative
easing. Exactement.
Voilà.
Là, effectivement, aujourd'hui, la différence, c'est que on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Au contraire, puisqu'on est dans un ralentissement de la croissance du bilan, on est même dans une décroissance. Et donc, effectivement, on voit que c'est les deux marchés qui sont affectés, puisque c'est une incertitude là qui fait peser sur les deux. On ne sait pas comment on va être mangé dans quelques semaines, le gouvernement qui va émerger de ça. Et c'est pour ça que les deux marchés qui sont concernés. Et peut-être moins. Enfin, on voit bien que là, ça se ralentit, puisqu'on va attendre. On va attendre la prochaine étape, c'est-à-dire les marchés attendent ce qui va se passer au niveau des potentiels résultats pour continuer d'ajuster en fait leurs anticipations.
Sylvain Rébi, vous voulez réagir?
Alors déjà en 2017, les marchés ont craint un moment un second tour Le Pen Mélenchon.
Il y avait le Frexit et il y avait la
possibilité qui pendant une dizaine de jours, on a cru qu'il y aurait un Le Pen Mélenchon. Et là, ça a été la panique. Ben, on l'a aujourd'hui, hein, le Pen Mélenchon. C'est plus 2017 et le marché réagit évidemment de la même façon. Alors en 2017, on a su très vite que Macron gagnerait, donc les marchés se sont calmés. Mmh. Là, pour le moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je pense que les marchés parient sur un Parlement sans majorité absolue. Et donc, c'est pour ça que les 70-80 points, bah, ça permet aux traders d'engranger, aux investisseurs d'engranger une prime. Hein, ils prennent 30 points de plus gratos, quoi. C'est toujours investir sur la France avec 30 points de base de mieux.
Bah, c'est le boon qui a baissé aussi.
Exactement.
Hein.
Il y a certains qui se sont reportés sur le boon. Ça veut dire ça. Hein, c'est le flag to quality.
Mais enfin, il n'empêche que par rapport aux Allemands, il y a toujours un arbitrage entre les deux. On a gagné 30 points, c'est toujours ça de prix. Je ne crois pas qu'il y ait d'inquiétude. On verra dimanche 7 juillet déjà dimanche prochain ce qui se passe. On verra dimanche 7 juillet. Oui, enfin, on sait qu'entre le premier et le second tour aux législatives, en 2022, ils se sont bien plantés, les sondeurs. Donc, on attendra le 7 juillet. Et si effectivement le Parlement n'est pas gouvernable et que la France n'est pas gouvernable, les marchés seront rassurés, paradoxalement.
Oui.
En revanche, si c'est l'un ou l'autre qui gagne,
il y aura
une petite panique ou une grosse panique. Et on verra. Bon, actuellement, la majorité absolue semble plus possible côté Front National, Rassemblement National, que côté nouveau Front Populaire.
Et il y a donc, pas mal de politologues qui y croient vraiment. Hein. Jérôme Jaffré, encore une fois, ce matin.
Franchement, laissons les politologues.
Non, mais Jérôme Jaffré, il est bon.
Non, ils sont pas bons. Aucun n'est bon.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. En l'occurrence,
En l'occurrence, on en reparlera. On jugera Jérôme Jaffré et les autres, d'ailleurs, il n'y a rien particulièrement contre lui, le soir du 30, et particulièrement pour la majorité absolue, le soir du 7 juillet, on en reparlera le 8 au matin, si vous voulez. Mais je dis simplement que pour le moment, la majorité absolue est potentiellement possible avec le Rassemblement National, et pas aujourd'hui avec le nouveau Front Populaire. Et c'est vrai qu'économiquement, le Rassemblement National ne propose rien. C'est-à-dire qu'ils avaient un programme extrêmement précis, qu'ils sont en train de dépouiller jour après jour.
Retraite TVA,
et tout.
Les deux seules qui tiennent, c'est retraite TVA.
Rien. Et donc, TVA. Ils n'ont pas de programme économique. Ils n'ont pas de ministre de l'économie, apparemment. Ils trouveront bien un idiot utile côté Ciotti pour venir faire le politique et se mettre au ministère des Finances, parce que ça fait joli dans le... il y a bien, je ne sais pas qui a suivi Ciotti dans cette histoire, mais il y a bien un gars qui connaît un peu l'économie, qui sera... Ils mettront un politique, forcément, au ministère des Finances.
La rumeur disait qu'ils étaient en train d'essayer de sonder des anciens grands chefs d'entreprise pour mettre la crédibilité à Bercy.
Mais je ne vois pas quel chef d'entreprise...
La BFM Business et Mathieu Pechberti ont essayé de sonder justement tous les noms qui circulent, et tout le monde dément pour l'instant.
Oui, mais parce que vous ne pouvez pas vous compromettre... Dans un gouvernement qui va être d'abord éphémère et qui va créer un gouvernement dans lequel vous n'avez pas le président de la République à vos côtés, ça n'a aucune chance de fonctionner véritablement. Donc je vois pas un chef d'entreprise digne de ce nom se mettre en avant au ministère de l'économie et des finances.
L'histoire des taux longs, c'est un sujet qui n'intéresse pas vraiment l'opinion, mais enfin faut pas oublier qu'on avait 25 milliards de remboursement d'intérêts en 2021, on a 50 cette année. Ça va vite. Rafik Smati, allez-y.
Il y a effectivement la réaction des marchés, qui est un indicateur de court terme. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait encore plus peur, qui est plus insidieux, qui ne se palpe pas. C'est l'impact sur l'attractivité de la France.
Vous avez vu Pascal Cani pour Business France, qui dit que son
très inquiet.
Mais c'est un sujet qui est extrêmement préoccupant. Aujourd'hui, si vous aviez un milliard d'euros à mettre dans une gigafactory, aujourd'hui là, est-ce que vous signeriez en France? Je pense que vous poseriez des questions. Si vous deviez faire des achats, si vous êtes étranger, que vous deviez faire des achats immobiliers en France, ne serait-ce que vous achetez une résidence secondaire, est-ce qu'objectivement vous le feriez aujourd'hui? Je ne crois pas.
Agents disent que tous les clients étrangers ont disparu.
Les
Français aussi.
On peut reprocher plein de choses à Emmanuel Macron et à l'exécutif actuel. La chose que l'on peut mettre à leur crédit, c'est que depuis 10 ans aujourd'hui, même d'ailleurs depuis 2014 et François Hollande, nous sommes dans un cadre qui est résolument pro-business et nous transmettons au monde entier l'idée que la France est un pays très business-friendly, avec une French Tech qui s'est structurée, qui représente quelque chose, avec un pays avec lequel on peut bosser, ce qui n'était pas le cas avant, avec une fiscalité qui est stable et une trajectoire qui est absolument lisible. Depuis 10 ans, c'est ça la France. Et c'est ce qui fait que ça se construit patiemment, difficilement, dans la douleur. Mais ce que l'on reprochait de notre pays il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire le côté extrêmement repoussoir vis-à-vis de l'étranger, on l'a complètement gommé aujourd'hui. Les étrangers, jusqu'à il y a un mois, se projetaient dans une partie de leur avenir entrepreneurial en France. Aujourd'hui, c'est complètement bloqué. Et dans le meilleur des cas, si nous sommes dans une coalition où la France est ingouvernable, je considère que c'est le meilleur des cas dans l'hypothèse actuelle, parce que les cas de la victoire de l'extrême gauche et de l'extrême droite, vous avez vu, maintenant j'ose les mots, seraient évidemment pires. Dans l'hypothèse où la France serait ingouvernable, alors c'est peut-être moins pire pour nous dans le quotidien, mais l'étranger n'aura pas pour autant
puissance.
Mais d'ailleurs, vous avez vu, là, tout le monde était vent debout contre l'idée que c'était des méchants Indiens qui allaient racheter Biogarant. Le 10 juin, ils avaient disparu de la circulation, les Indiens.
Ils n'ont pas laissé d'adresse, en plus.
Et du coup, c'est un fonds d'investissement britannique, BC Partners, qui va s'allier avec BPI pour essayer de reprendre le capital du leader français.
Et ça, on aura du mal à le mesurer.
J'ai eu ce débat avec Eric Ayer hier, évidemment, sur le bilan de la politique de l'offre. Il est très critique parce que lui regarde principalement le point noir, et c'est vrai, de la productivité. Mais je suis d'accord avec vous, Rafik. Moi, je me souviens des baromètres d'attractivité d'il y a 15 ans, 20 ans. On était un repoussoir. Et maintenant, c'est totalement différent. Je suis pas sûr qu'il y ait un Choose Friends 2025, par exemple.
Vu le climat actuel, c'est pas
bon. On marque une pause. Dans un instant, on va reprendre le fil de nos sujets, n'est-ce pas, hein, voilà. Pouvoir d'achat, retraite, immigration. On a commencé à évoquer un peu le sujet. 10 000 entrées légales par an pour le travail en France. Et puis, on a fait les réactions de marché. C'est bien, on fera du Bitcoin, c'est promis. Allez, à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. Sylvain Aurébi, président d'Orientis, l'été Cousmi. Et Rafik Smati, chef d'entreprise et auteur du Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de l'IA. Chez Erol, il y a un auditeur qui me dit refaites de l'écho. C'est vrai qu'on s'est un peu lâché dans la partie. J'avoue. Pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous...
Oui. Pouvoir d'achat. Déjà, c'est une imposture de parler de pouvoir d'achat.
Pourquoi
je vais vous dire. Le pouvoir d'achat.
Là où je dis que c'est une imposture, c'est d'imaginer que le politique a des solutions.
Ah, mais c'est exactement ce que j'allais vous dire. Bon. Le pouvoir d'achat, c'est la résultante d'une politique économique. On ne proclame pas un pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la conséquence de toutes les décisions qu'on a fait en termes d'investissement, en termes de productivité, en termes de création de valeur. Et tout ça, la conséquence de ça, ça crée un gâteau que l'on partage et ça s'appelle le pouvoir d'achat. On ne peut pas prendre le sujet par le bout. C'est-à-dire que si on considère que le pouvoir d'achat est une politique économique en tant que telle, on s'interdit de penser ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire la productivité, le travail, la vision à long terme, l'innovation, parce que d'ailleurs pendant cette campagne on parle de beaucoup de choses mais on parle pas d'innovation.
C'est ce que dit Emmanuel Combes ce matin, pas les mots d'éducation, d'innovation, de concurrence.
On parle pas d'intelligence artificielle, on parle pas de tout ce qui va redéfinir notre rapport au travail, notre rapport à l'éducation, notre rapport à la santé, notre rapport au monde tel qu'il est en train de se définir. Pour moi, le pouvoir d'achat, vous voyez, la révolution de l'IA par exemple, elle va révolutionner notre rapport au travail et donc la question du financement de notre modèle social. Doit pouvoir se poser la question de faire porter notre modèle social sur la consommation via la TVA, ou est-ce qu'on continue comme ça en augmentant la CSG ? J'en sais rien, il y a plein de pistes qui doivent être mises sur la table, mais on doit en parler. Or, on n'en parle pas, et on veut proclamer le pouvoir d'achat avec une baguette magique. C'est pour ça que je dis que c'est une imposture.
Nathalie Jean.
Et sur le pouvoir d'achat, il y avait une étude qui a été relayée de Circana, qui est spécialisée dans l'étude de la grande distribution.
Les produits de grande consommation.
Voilà, et qui a été relayée par Philippe Gutzmann, qui est lui-même un spécialiste de la grande conso, et qui était assez intéressant, en fait, il reprend l'évolution des prix dans la grande conso, avec les premiers prix, en moyenne, les prix des produits de grande consommation. Et en fait, il a ajouté l'évolution du SMIC. Et en fait, ce qu'on montre quand on met ses courbes...
Le seul salaire indexé.
Voilà, exactement. Qui est qu'en fait, le SMIC est au-dessus, c'est-à-dire qu'il a progressé 12% de plus que la progression des prix de grande consommation en moyenne. Et évidemment, l'écart s'est réduit dans les années récentes puisqu'on a eu plus d'inflation. Mais néanmoins, le SMIC est gagnant. Et c'est incroyable, puisque on en vient au pouvoir d'achat qui, en fait, en réalité, quand on regarde, n'a pas du tout joué en défaveur des revenus les plus faibles. Par contre, ce qui a changé, et ça c'est important de le souligner, c'est que la proportion de personnes qui sont SMICards a augmenté C'est-à-dire que effectivement, cette population de l'écrasement des salaires, et on en revient toujours au même problème. Le problème, c'est pas franchement que les smicards ont moins de pouvoir d'achat qu'avant, puisque c'est prouvé par cette étude qu'en fait c'est le contraire. Enfin, en tout cas, on le montre très bien. Mais c'est qu'effectivement, il y a plus de gens concernés, et il y a en fait un problème de perception, d'écart de perception, pour des raisons qui ont souvent été évoquées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des dépenses récurrentes qui ont elles clairement augmenté, comme le logement, l'essence, l'énergie, qui font effectivement partie de ces biens qui ont fortement augmenté. Et un autre aussi point très intéressant de cette comparaison, c'est que les premiers prix sont ceux qui ont le plus augmenté.
Oui, en fait. Mais oui, parce que c'est là où il y avait le plus de marge.
Exactement. Et donc, en fait, il y a un effet, effectivement, Giffen qui s'observe ici et qui est assez intéressant, puisque, effectivement, les gens qui sont contraints par leurs revenus sont, effectivement, exposés à ces prix qui ont le plus augmenté. Mais en réalité, si on regarde, en fait, l'évolution des courbes, en fait, le pouvoir d'achat n'a pas été menacé dans les années récentes grâce, effectivement, à plus de concurrence, aux importations, sans doute aussi, puisque, voilà, qui ont permis au prix d'être tiré vers le bas. Donc je trouvais que c'était assez intéressant et qui en fait alimente cette réflexion sur le fait qu'il y a des écarts effectivement de perception entre ce qui est et ce qui est ressenti en tout cas.
Je sais qu'il y a toute une partie des gens qui peuvent nous écouter qui ont beaucoup de mal à être convaincus quand on leur dit que contrairement au discours général, si on regarde les purs chiffres, mais alors les chiffres, c'est pas la, on me dira les chiffres, c'est pas la vraie vie, mais bon.
Bah, c'est parce certains, que c'est des moyennes, certains, c'est toujours pareil.
Vous diront que vous ne dites pas la vérité.
Exactement.
Et Éric Ayard confirmait hier que, en regardant de près les évolutions de pouvoir d'achat, effectivement, par déci, les niveaux de salaire. Le pouvoir d'achat au cœur de la campagne, Sylvain Rébi.
Bon. Mais de quoi voulez-vous qu'il vous parle? On est à la veille d'une élection.
Je sais pas.
Ils rasent gratis. Donc, voulez-vous qu'ils vous disent en dehors du fait que ils vont améliorer la vie des Français? Améliorer la vie des Français aujourd'hui, c'est plus leur donner du travail puisque le chômage de masse structurelle a baissé. Qu'aujourd'hui, je vais pas dire qu'on est au plein emploi, mais quand même.
Pas au plein emploi, hein.
Non, mais si
7,
quand même.
7,3, 7,4 de chômage,
on est. Oui, mais. Comme vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas formés dans les sans-emploi, il faut d'abord les former pour leur permettre de retrouver un emploi. Donc, avec la population qu'on a aujourd'hui, on n'est pas loin du plein emploi. Donc, aujourd'hui, les partis politiques ne peuvent pas vous promettre mieux sur l'emploi. Donc, il n'y a qu'une chose qu'ils peuvent vous promettre, c'est que vous aurez plus d'argent à la fin du mois. Et donc, on rivalise d'idées plus stupides les unes que les autres. Et on va plumer gratis les pigeons jusqu'au 7 juillet. Et le 8 au matin, on dira... audit, compte massacré par Macron, le maire, etc. Malheureusement, on ne peut pas faire ça tout de suite, mais nous le ferons après avoir remis en place les comptes publics, ce qu'aucun des concurrents ne fera réellement. Donc on discute de choses qui ne se produiront pas. L'augmentation du pouvoir d'achat, encore une fois, Nathalie le disait très bien, le pouvoir d'achat n'a pas été attaqué, il a plutôt été bien préservé pendant ces dernières années. L'augmentation du pouvoir d'achat ne se produira pas avec aucun des candidats, de droite, centre ou gauche, aucun ne pourra améliorer durablement le pouvoir d'achat. Ce qui a été fait depuis des années, ce qu'on peut faire de mieux pour le moment, et améliorer le pouvoir d'achat de façon supplémentaire, révèle de l'imposture, à mon avis.
À moins d'accentuer la politique de concurrence que dirait Emmanuel Combes.
Emmanuel Combes, il dit ce matin, la hausse durable du pouvoir d'achat, elle se construit, elle se décrète pas. Oui. Comme disait Jean Bodin, l'humaniste, le souverain fait la monnaie, mais pas les prix, par exemple. C'est un peu la même idée. Les leviers sont l'éducation, l'innovation, la concurrence qui attaque les rentes, et le libre-échange, écrit-il. Bon, il est fidèle à sa position.
Mais c'est exactement ce qu'on observe dans les faits, de toute façon, c'est pas une vue de l'esprit.
J'ai passé à peu près 3-4 jours de chronique à être sur ce terrain-là et leur apprendre chacune des mesures dans tous les camps et à expliquer pourquoi il y avait un mirage derrière chacune d'elles. Et chaque fois, je discute avec des gens qui sont un peu plus éloignés des choses économiques et qui découvrent en fait... Parce qu'il y a une espèce de sentiment d'évidence sur le fait de baisser la TVA, ben génial, les prix vont baisser. Et puis après, quand on commence à défaire la pelote, on se rend bien compte de comment les choses se passent. Et en plus, on l'a déjà essayé. C'est pareil sur l'histoire des prix bloqués, enfin tous ces trucs-là. Quoi. La retraite, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui y voient clair? Moi, je dis, il y a un truc qui est évident dans les deux blocs droite-gauche, c'est j'abroge la réforme de la dernière. On est d'accord là-dessus? Donc, âge légal 62?
C'est pas sûr, Bardella, c'est pas sûr qu'il ait dit ça, finalement.
Ah, enfin, si. il a dit j'abroge.
Son contraire, j'abroge pas tout de suite.
Non, il a dit qu'en tout cas, il veut faire une catégorie spéciale à 60. Ouais. Oui, alors, qu'on travaille, qu'on commençait.
Celui qui a commencé très tôt. Avant 20 après, ans, qui flou, a cotisé hein. 40 ouais. ans, il part à 60 ans.
Voilà, mais après, c'est flou. Le reste, j'ai pas bien compris, moi.
La réalité, c'est que. Nous avons affaire à des mauvais marketeurs. Vous savez, quand vous êtes en marketing, quand vous définissez un prix, vous avez toujours un prix d'appel.
Oui, le Paris New York à partir de 35 euros. Voilà. Quand tu vas l'acheter, ça te coûte 180.
Vous voyez, dans mon business, quand je définis un prix d'appel, je me donne un point d'honneur à ce que le prix d'appel, le client puisse y accéder facilement. C'est pas le cas de tout le marketing. Dans bien des business, vous avez un prix d'appel, vous avez énormément de mal à trouver ensuite le produit derrière.
Il y a marqué toujours.
Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. La retraite à 60 ans, c'est du marketing, du mauvais marketing, c'est le produit d'appel. Mais quand vous rentrez dedans, quand vous rentrez dans le magasin, la retraite à 60 ans, vous n'avez pas à la trouver. Et c'est pour ça que je considère que c'est une insulte. Cette proposition est une insulte qui est faite à l'intelligence des Français et de leurs électeurs. Parce que, oui, vous allez avoir de manière résiduelle quelques personnes qui vont partir à la retraite à 60 ans, mais l'essentiel des gens, et ça a été flagrant dans le débat entre les trois candidats hier, l'essentiel des Français continueront de partir à la retraite à 64, 65, 66 ans. C'est ça la réalité.
La retraite à taux plein. Mais à taux plein. L'exemple, Bardella a pris l'exemple.
Mais évidemment.
42 annuités, c'est déjà moins qu'aujourd'hui, c'est 43,5. Il a dit le gars qui a commencé à 24, on ajoute 42 ans d'annuité, de cotisation, il part à 66 à taux plein, même si l'âge légal est 62.
Et alors, complètement.
Vous observerez. Mais il faut le rappeler.
Et alors, vous observerez que, comme d'habitude, la question sur le débat des retraites porte sur les différentes variables que nous allons ajuster. Mais personne, hélas, ne met sur la table, mis à part Édouard Philippe, mais il n'est pas directement en lice aujourd'hui, la question de la retraite par répartition.
La capitalisation
qui est évidemment l'un des leviers majeurs des prochaines décennies, pour une raison très simple, c'est que la démographie aujourd'hui, et c'est là où nous devons être honnêtes, la démographie ne pourra pas assurer durablement le système de retraite par répartition.
Et c'est surtout que ça permettrait en plus de boucler, non seulement c'est un moyen de résoudre le problème, mais c'est à l'avantage des salariés et à l'avantage de l'union des capitaux. C'est-à-dire que si vous avez effectivement
la question. Il faut très longtemps.
Et ça permettrait de réconcilier les Français avec les marchés.
Voilà,
marché. Le problème, c'est que
ça met du temps.
Si on avait fait les fonds de pension à la fin des années 90,
on aurait eu
20 ans de recul, 25 ans de recul, 20, même presque 30, non pas 30, mais un peu plus de 25, on aurait réussi à arriver à maturité d'un système par capi, il faut du temps. Parce qu'on ne va pas vous prendre, 150 tous les mois et ajouter soudainement 100 pour la capi. Non. Il faut.
Il y a un régime de transition qui est effectivement difficile à faire.
Les Pays-Bas ont fait le choix de la capi.
Et c'est une réussite.
Ils consacrent 7 points de PIB à la retraite contre 14, nous. Oui. Et ils ont des pensions 30% supérieures.
Exactement. De toute façon, c'est mathématiquement imbattable. Et vous avez encore des gens qui vous disent que c'est faux.
J'ai des réactions sur la retraite. Oui. Où j'ai encore rappelé ce matin qu'on est quand même dans un truc bêtement arithmétique. J'ai combien d'actifs pour combien de retraités? Je vais prendre combien à chaque actif tous les mois pour verser combien à chaque retraité? Et consacrer combien de dépenses publiques pour tout ça? Sachant qu'à 14 points, on est 4 points au-dessus des autres pays. Eh bien, l'arithmétique ne convainc pas. Et j'avais autrefois plus de 4 actifs pour un retraité. Maintenant, je suis à 1,7 actif pour un retraité. Vous imaginez quand il y a un actif pour un retraité, c'est-à-dire chaque actif, on lui retire de son salaire l'intégralité d'une pension qu'on donne à un retraité. Enfin, c'est ça.
On y arrive, hein.
Oui, mais c'est pas possible. On disait hier. Alors là, j'ai trouvé qu'Éric Heyer avait raison. Et du coup, ça m'a incité ce matin à dire non. En fait, il faut aller à 58 ans. C'est parfaitement possible, si on explique ce que ça veut dire pour les gens.
Oui.
Ok, 60, ok, 58, allez, 56. Mais attention, 56, voilà, ça veut dire que c'est une proposition politique à l'ensemble de la nation qui consiste à dire on va travailler moins. Eh bien, on explique quel est le prix. Généralement, on met un prix à côté d'un produit, hein, n'est-ce pas, Rafik ? Eh bien, le prix du travailler moins, c'est ça. Eh bien, oui, c'est des actifs qui payent plus, des retraités qui touchent moins, ou alors les deux en même temps. Oui, mais il faut donner le prix. On ne donne pas le prix.
Non, on ne donne pas le prix, bien sûr que
voilà,
non.
Voilà, donc...
Le prix est le descriptif du produit. Le B.A.B.A. en marketing.
Bon.
Et pourtant, on fait du Nutri-Score aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai que le prix, on l'a pas. Et le descriptif du produit, il est de plus en plus...
Flou.
Oui. Non, mais bon, vous voyez bien que...
La seule chose dont on est certain, c'est qu'il n'y a pas la capi.
Mais la capi, y a pas de capi.
C'est la clé.
Il faut le dire et il faut le répéter. Agir Carco, c'est de la capi.
Oui.
Non, mais ouais, Préfond, c'est de la capi.
Non, dans le régime général.
Mais dans le régime général.
Oui. Bon. Mais il faut dire... aux auditeurs qui auraient peur de la CAPI, c'est que si vous prenez l'histoire des marchés financiers depuis le début, si vous avez investi à n'importe quel moment, y compris juste avant la crise de 29, oui, y compris là, juste avant la crise de 29, sur le long terme, vous auriez de toute façon été gagnant. Le long terme, c'est-à-dire ça se compte en décennies, 10, 20, 30 ans. Oui. Vous auriez de toute façon été gagnant. Donc il n'y a aucune prise de risque sur le long terme, j'insiste sur la dimension long-termiste, liée au marché, bien au contraire.
Et puis en plus, il faut rappeler, comme toujours, on l'a déjà fait ici, c'est que ces systèmes de capitalisation obligatoires, cette fois-ci, sont confiés à des gens dont c'est le métier, et on sait parfaitement orienter les prises de risque en fonction de l'âge des gens. Quelqu'un qui a 35 ans peut prendre davantage de risques qu'un vieux comme moi, par exemple. Moi, je ne veux plus maintenant, hein, trop vieux.
Mais... Obligation souveraine, c'est tout.
Quoi?
Obligation souveraine.
Oui. Je veux du bon Bund.
Je veux du bon
T-bone.
Avec un peu de français qui a pris 30.
Un peu d'OAT.
De façon opportuniste.
Un peu d'OAT. Bon, 10 000 entrées légales pour avoir de la main-d'œuvre par an. Ça vous inspire, Sylvain, le chiffre.
Non, moi, ça ne m'inspire pas du tout. Ça,
10 000 entrées légales. J'ai redonné les chiffres de la DARES ce matin. Hein. Un emploi sur dix, c'est un étranger.
Nicolas, je me refuse à,
bon, d'accord,
à commenter des sornettes comme celles qu'on entend depuis tout à l'heure. Demain, le pouvoir d'achat va augmenter, on va arrêter de faire venir des immigrés, on va en faire sortir beaucoup plus que ceux qui vont rentrer. Bon, c'est des programmes électoraux. Retrouvons-nous le jour où il y aura un gouvernement avec un programme qu'il essaiera de l'appliquer à l'Assemblée nationale. Et parlons de ça. Moi, si vous voulez élucubrer sur ces trucs-là, je vous laisse faire. Mais on a beaucoup plus de certitude à parler du Bitcoin sur lequel on va y aller, beaucoup de bêtises,
on va y aller,
plutôt que de parler sur le nombre d'immigrés qui vont rentrer, surtout 10 000, ouais, voilà.
Pourquoi
pas 2005
Il y a Jean Pisani-Ferry dans l'opinion qui dit, de toute façon, ces programmes ont vocation à ne pas être appliqués.
Évidemment, mais on le sait.
Mélanie, c'était pas mal sur cette question-là. Ah,
mais Mélanie, de toute façon, elle est arrivée, et déjà, elle s'est mise dans les rails de monsieur Mario Draghi. Donc, oui, elle s'est très vite mélonisée. Bon, et Tsipras, il s'est mélonisé. Et Liz Truss, elle aurait dû, si elle serait...
Tsipras, il a été forcé.
Oui.
C'est-à-dire, s'il n'avait pas... Comme il y avait la tripartite...
Oui. Mélanie, elle est venue avec un programme libéral, au départ. Elle n'avait pas, un programme économique extrêmement virulent.
Non,
mais il y avait des
trucs un peu... C'est l'immigration.
Il y avait mais même sur les salaires minimums, il y avait des machins un peu démagos qui étaient infaisables. Bon, ça a été amendé tout de suite, voilà. Mais ce qui est terrible, c'est quand on arrive avec des gros... Est-ce que ça crée de l'espoir, tout ça? Gilles Raveau, que vous avez entendu ici même, qui vous a un peu saoulé, visiblement, quand même, dans ses prises de position, il est particulier, Gilles. Il a écrit une tribune dans Alter Echo où il parle d'espoir. Les gens achètent de l'espoir. Quand tu crées de l'espoir et que tu viens dire 48 heures après que c'était fake, souvenez-vous, Nigel Farage, Brexit, il n'a pas fallu 4 jours pour qu'il aille à la télé anglaise dire que les fameux 8 milliards de livres qui allaient revenir sur le sol anglais et qui allaient rentrer dans la protection sociale, ça n'allait pas être si simple. C'est quand même l'argument qu'on a vendu aux Anglais pendant des semaines pour les convaincre.
Et d'ailleurs,
c'est super dégueulasse.
À ce titre, on peut faire une petite comparaison qui est sans doute un peu osée, mais justement, c'est ce qui explique que Milei, pendant très longtemps, est soutenu par la population, parce qu'il a justement dit tout l'inverse. Il a dit, mais là, vous allez avoir des larmes, du sang pendant encore un bon bout de temps. Et voilà, il a pas créé de faux espoirs et du coup, il a un soutien populaire plus que politique. Mais parce qu'il n'y a pas de faux espoirs.
Là où je suis d'accord avec Sylvain et sur un autre point, peut-être un petit peu moins, là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est que c'est extrêmement frustrant de voir à commenter des élucubrations populistes. Mais là où je vous rejoins moins, c'est que pour la première fois, ces élucubrations ont une réelle possibilité d'accéder au pouvoir. Et donc, je crois que nous devons faire preuve de pédagogie, de dire les choses et de démonter précisément leurs arguments, parce que l'élection n'a pas encore eu lieu. Et donc, s'il y a un moment pour essayer de démonter leurs arguments et faire en sorte que le pire n'arrive pas, eh bien, c'est plutôt maintenant qu'après.
Certes.
Sur l'histoire du SMIC à 1006 ou encore les quotas d'immigration pour le travail, allez écouter ce matin Guillaume Richard qui était ici chez Laure Closier dans Good Morning Business. Il a 20 000 salariés, énormément de salariés dans les services à la personne sont au SMIC. Il vous raconte ce que ça veut dire pour une boîte comme la sienne. Et évidemment, dans les services à la personne, c'est les chiffres d'ARES que j'ai repris là. 39% de gens qui travaillent dans les employés de maison sont des gens d'origine étrangère. 39%. Et gardiennage, sécurité, 28%. Bon, il vous raconte ce que ça veut dire pour une entreprise comme la sienne, qui est l'un des premiers entrepreneurs privés du pays, je crois, pas loin. Bon, mais comment aussi commenter des élucubrations? J'aurais peut-être pu commencer l'émission comme ça. Ah. Bien, merci d'être venu, cher commentateur d'élucubrations. Écoutez... L'immigration, on a tout dit, hein, je crois, Rafik. Je pense que... une économie comme la nôtre qui vieillit peut-elle vivre Jean-Marc Daniel disait ce matin, il y a deux solutions. Un pays qui devient vieux, qui se met à vendre plus de couches culottes pour adultes que pour enfants, et qui vire quasiment à l'EHPAD, voire aux soins palliatifs. Soit il place son épargne dans le reste du monde, il en tire les dividendes, soit il fait venir des gens pour bosser.
Mais la question sur le débat sur l'immigration est en réalité un débat qui devrait être très sérieux. Parce que c'est un sujet de fond. Il ne peut pas être traité avec des slogans. La question de savoir si est-ce qu'une nation a le droit d'avoir la maîtrise de son flux migratoire, c'est une bonne question.
Et
on doit pouvoir se la poser. Et c'est très bien. En revanche,
je parle bien d'économie, hein, je ne parle pas d'insécurité
et d'ordre républicain. Hein. Qui rentrent en ligne de compte et c'est évidemment fondamental. En revanche, y aller par des slogans en disant je ne sais même plus quel est le slogan qu'ils ont utilisé. Non, mais tout ça, ce n'est pas sérieux.
Immigration de croissance.
Un pays a besoin de s'enrichir de l'extérieur. Il a besoin de faire venir des talents du monde entier. Ensuite, et ça, c'est un autre sujet, il y a des lois. Quand tu viens en France, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Et tu dois les appliquer. Et si tu ne les appliques pas, eh bien, on doit être extrêmement sévère avec toi. C'est malheureusement aussi simple que ça.
Je regarde les réactions, j'ai un peu de tout. L'ISF qui touche l'outil de travail. J'en parlais avec Olivier Babot. Il nous disait, c'est la fin de la création d'entreprise, quoi. Tu crées ta boîte et tu la vends au bout de deux ans parce que
c'est la désincitation.
Oui. Et puis les fonds d'investissement étrangers, pour le coup, nous remercient parce que tu es entrepreneur, tu crées ta boîte, t'as pas beaucoup de revenus, mais t'as une valo qui est extrêmement importante, ce qui est très fréquent dans la tech. Mais pas que dans la tech. Vous prenez les agriculteurs, c'est pareil. Vous avez des agriculteurs, ils n'ont pas forcément un gros salaire, mais ils ont un patrimoine qui est lié, par exemple, à leur vigne, à leur exploitation, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir vendre chaque année une partie de ta boîte pour payer ton ISF. Et donc, tu vas la vendre à qui? Tu vas la vendre à des fonds rapaces et tu vas perdre ta souveraineté et la France va perdre la souveraineté de ses pépites. C'est vraiment... faire plus suicidaire comme mesure, on ne pourrait pas.
Je pense que c'est la plus suicidaire de toutes les élucubrations, celle-là.
Oui.
Là, vous êtes d'accord, Sylvain?
Oui, je suis d'accord.
La manière dont on fait
à ce que j'ai dit précédemment, c'est encore une fois une mesure qui ne sera pas appliquée. Ouais.
Mais je trouve que la manière dont...
Et heureusement, pour les raisons que vient de...
Je sais même pas si ça sera pas appliqué, honnêtement, par idéologie.
La manière dont Rafik l'a juste caricaturé, c'est exactement comme ça qu'il faut faire, parce qu'il faut rendre ça parfaitement audible à tous, et surtout pas tomber dans le langage techno avec ces sujets-là.
Et c'est terrible, parce que ça lance un message sur la valeur travail, qui est horrible.
Mais vous êtes trop intello, déjà.
Oui, c'est vrai.
Non, mais il faut vraiment les sujets, il faut les traiter comme ça. Enfin, voilà.
C'est une désincitation extrêmement forte.
C'était le truc, on n'avait jamais mis l'outil de travail dans l'ISF. C'était l'ultime erreur qui n'avait pas été commise.
Même Mitterrand, dans l'impôt sur les grandes fortunes, n'avait pas mis l'outil de travail dans l'ISF. Enfin,
parce que le travail, théoriquement, c'est justement un concept populaire. Donc on va pas taxer le travail. Enfin, on va pas aller à l'encontre.
Bitcoin. Hein? Bitcoin. Nathalie, vous êtes l'ambassadrice.
La papesse. Hein,
l'avocate du Bitcoin dans cette émission. Amaury de Tonquédec nous dit régulièrement chez Lorraine Goumeau, c'est un spécialiste aussi des cryptos, il essaie de voir comment les choses pourraient évoluer. On a regardé le fameux halving, je ne sais plus exactement à quelle date c'est tombé, en avril.
19 avril.
Donc c'est ce moment où la production de Bitcoin est considérablement réduite et la rémunération des mineurs est réduite d'autant, de moitié, hein, je crois.
Oui, c'est pour ça que la production baisse, parce que la rémunération...
Absolument. Et là, il y avait l'idée qu'il y avait un phénomène de rebond après le halving. Ah, mais finalement, le phénomène de rebond, c'est pas tout de suite, c'est pour bientôt. Bon, on est passé sous les 60 000 dollars, on a perdu 12% en un mois. Ça vous inspire? Quelle réaction?
Alors moi, ça m'inspire. J'aime bien en fait ce qui se passe parce que je pense qu'en fait ceux qui regardent le Bitcoin avec cette seule prisme de l'actif financier et donc avec ces tonnes de modèles techniques qui vont dire ce qu'ils vont dire, je pense ils se trompent. Ils sont susceptibles de se tromper beaucoup plus.
Vous voulez dire que
plus.
Les anticipations de combien vaudra-t-il en fonction de tel événement,
il est relativement nouveau, qu'à chaque fois qu'il y a eu des étapes dans sa maturité, dans l'utilisation qu'on en a fait, eh bien ça rebat les cartes du marché. Et donc là, on a quand même passé un cap important. Donc effectivement, il y avait des points communs entre les précédents halving qui montraient que le Bitcoin augmentait des mois après.
Des mois.
Voilà, c'est des mois après. C'est en général, c'était en général, je crois, à peu près plus de 6 mois après. Voilà, c'était ce qu'on observait. Aujourd'hui, honnêtement, entre 2000, le dernier halving, c'était donc 2020, entre 2020 et aujourd'hui, il s'est tous les 4 ans à peu près. Il s'est passé beaucoup de choses. Et le beaucoup de choses qui s'est passé est très important, puisqu'en fait, il s'est quand même un peu institutionnalisé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui des acheteurs récurrents et des vendeurs récurrents qui n'existaient pas avant.
Je vous accorde le point.
Voilà. Donc, pour moi, c'est difficile de lire avant, en plus, d'appliquer ce qu'on a vu avant à ce qu'on voit aujourd'hui. D'autant plus qu'on a eu un phénomène perturbateur extrêmement important. On a eu, c'est pas un perturbateur endocrinien celui-là, mais c'est un perturbateur quand même de régulation. C'est qu'en fait, la SEC a autorisé les fameux ETF Bitcoin.
Autorité de marché américain.
Exactement. Qui a fait que les institutionnels se sont donc investis dedans en début d'année. Donc ça a bouleversé le système, puisque tout d'un coup, on a eu des gens qui sont venus effectivement investir en Bitcoin. Donc au lieu que la hausse, effectivement, elle a eu lieu très fortement entre janvier et mars.
Ça a été un accélérateur, hein, quand BlackRock s'habille.
C'est un accélérateur. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans quelle situation ? Dans une situation où, en fait, ce type de nouvel investissement se stabilise, c'est-à-dire il y a des gens qui sortent, qui rentrent au gré en fait de leur envie, de leurs anticipations. Donc aujourd'hui effectivement on a des sorties de ces ETF Bitcoin, il y a des gens qui prennent des gains de plus-value et qui s'en vont ailleurs. Et ça on ne sait pas encore. Enfin c'est le point qu'on ne pouvait pas anticiper. On ne sait pas comment un détenteur d'ETF Bitcoin va se comporter, puisque en fait c'est des particuliers qui vont au gré de leurs recommandations vont recomposer leur portefeuille. Donc je pense qu'effectivement c'est compliqué d'avoir
Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui.
Là il y a en plus eu un règlement sur la fameuse société Mongox, où en fait on va redonner aux détenteurs on va redonner des bitcoins à ceux qui avaient été et donc ça aussi on ne sait pas ce que
Mongox,
les détenteurs
ça a été la chute des premières chutes
de 2014 et donc là on ne sait pas ce que ceux à qui on va les redonner on ne sait pas s'ils vont les vendre, s'ils vont les garder, et puis on a l'incertitude effectivement sur la politique monétaire de la Fed qui aussi elle agit par rapport à la gestion en fait d'actifs risqués pour savoir dans quelle direction on va s'orienter. Voilà, moi tout ce
tous
que
les
je veux
experts
dire, c'est
attendent
que...
justement la Fed comme exactement. Le prochain marqueur d'un virage.
Je pense que l'actif il est là, il s'est installé. Maintenant, tenter de répliquer des lectures de ce qui s'est passé avant alors que le marché était beaucoup moins animé par des vrais vendeurs et des vrais acheteurs.
Mais le côté institutionnel, oui, voilà. Ça, j'admets que c'est une vraie nouvelle.
Je pense, et la volatilité a fortement baissé, contrairement à ce qu'on peut penser. Elle a vraiment beaucoup baissé.
On avait, je ne sais plus à quel moment, on avait fait du 62, 63 000, 30 000.
Oui, c'est ça, c'était en 2020.
Vous avez des cryptos, chers amis ?
Non.
Non. Graphique, non. Un homme de la tech comme vous.
Non, mais j'ai beaucoup de respect et d'intérêt.
Vous avez du respect pour la blockchain ou pour les cryptos ?
Les deux.
Je
trouve que c'est extrêmement intéressant et je crois même qu'il y a un enjeu sur la question de la monnaie numérique, etc. Oui. On va pas en parler maintenant. Ça laisse entrevoir une nouvelle façon de réguler les flux dans l'avenir. Je pense que c'est un big bang.
L'euro numérique, c'est un big bang. Mais l'euro numérique sera une monnaie banque centrale.
Mais c'est ça qui va être extrêmement
un très beau sujet de différence entre les stablecoins, le dollar digital qui a priori ne verra pas jour, et l'euro numérique. En fait, les différences de positionnement entre les pays est très intéressant.
Mais en revanche, le Bitcoin aujourd'hui est en concurrence avec des valeurs plus classiques. Regardez Nvidia, par exemple, même s'il y a une petite correction ces derniers jours.
Oui, 430 milliards de valo. Hein.
Mais regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si vous voulez investir dans un actif plus ou moins spéculatif, vous avez l'embarras du choix. En fait, vous n'avez pas que le Bitcoin, vous avez des valeurs.
Il y a l'espèce de côté libertarien dans le Bitcoin, l'affranchissement du système.
De toute façon, c'est ce qui fait sa vraie valeur. Vous regardez des pays comme le Liban, l'Argentine, ils ont été ravis d'avoir le Bitcoin pour pouvoir échapper à l'État qui venait les spolier.
Oui, Sylvain Ribi.
Non, je dis la question d'investir entre guillemets, parce que je suis pas sûr que ce soit le terme.
C'est un actif.
D'investir dans le Bitcoin, c'est d'être capable de comprendre ce qu'il fait réagir. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que quiconque soit capable de prédire les mouvements du Bitcoin comme on ne peut être capable de prédire les mouvements de matières premières, les mouvements des monnaies, les mouvements de l'or, où il y a des sous-jacents qui font qu'il se passe quelque chose. Je n'ai toujours pas compris ce qui fait le sous-jacent du Bitcoin et ce qui fait que le Bitcoin peut passer de 30 à 60 ou à 70 comme il l'a fait ces derniers mois, de passer de 72 à 59 comme il l'a fait en 3 jours, de remonter peut-être dans les semaines qui viennent. Je ne comprends pas ce qu'il y a derrière.
Qu'est-ce qui fait
Non mais alors, mais à Chavant, c'est pas un truc qu'on peut prévoir. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'il y a des mouvements du Bitcoin qui sont compréhensibles et qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit capable de dire demain le Bitcoin va augmenter ou demain le Bitcoin va diminuer comme on peut le faire sur tous les marchés à terme. Là, j'ai une vraie question et tant que je n'aurai pas résolu cette question, comme disait Warren Buffett, tant que n'investissez que dans les entreprises dont vous comprenez,
dont vous comprenez
ce qu'elles font et là, je ne comprends pas. Et en plus, chaque fois que je dis un truc sur le Bitcoin, je me fais insulter
mais ça va pas
sur les réseaux
ça va pas
par les gens.
Je vous
les
fais suivre.
Non, mais ce sont les gens qui ont un morceau de la vraie croix dont je ne suis pas possesseur et donc je les laisse.
Je n'ai pas convaincu.
Je ne peux pas rendre la parole, j'ai plus le temps à Nathalie pour éclairer votre lanterne. Je ne manquerai pas de vous faire suivre les insultes.
Certainement. Je vous en prie, je les attends avec impatience.
On a équilibré.
Vous avez osé défoncer la porte de la chapelle.
Voilà. Je n'ai pas défoncé la porte, j'ai dit que je n'y comprenais rien à leur chapelle. Bon. Et donc il faut qu'ils fassent des sermons de meilleure qualité pour me convaincre.
Joli. Merci Nathalie Janson, Sylvain Rébi, Rafik Smati, demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.